Donc, bonjour, Benoît Cibot, président de l'April. Merci à tous d'être venus. Alors, dans quel cadre se place cette rencontre aujourd'hui? Ça se place dans le cadre des municipales 2008 à Paris. Et c'est suite à l'appel qui a été lancé par un certain nombre d'associations parisiennes autour du logiciel libre et du numérique, à savoir les associations Altern, Belinux, Copyleft Attitude, Dogmazic, FDN, Flouzo et Parinux. Et ça se place côté April dans le cadre de l'initiative candidat.fr qui fait suite aux actions qu'il y avait eu pour les législatives et les présidentielles les dernières, et dans le cadre donc de l'action cette année pour les municipales et les cantonales. Donc nous avons avec nous présents Patrick Bloch, qui est donc premier secrétaire fédéral socialiste sur Paris, député socialiste de la 7e circonscription et tête de liste dans le 11e arrondissement. Avec nous aussi Christian Sauter, qui est adjoint à la mairie de Paris, chargé du développement économique, des finances et de l'emploi, candidat dans le 12e arrondissement et ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Et François Dagneau, adjoint au maire de Paris, chargé de l'administration générale, des ressources humaines, de la décentralisation et des relations avec les mairies d'arrondissement. Il est aussi premier adjoint au maire du 19e arrondissement, représentant de la ville de Paris au conseil d'administration de l'ADULACT, donc logiciel libre et administration et collectivité territoriale, et candidat dans le 19e arrondissement. Les gens qui vont poser donc des questions des représentants des diverses associations citées précédemment, Emmanuel Seyman, qui est donc le président de Parinux, un groupe d'utilisateurs sur Paris, Jérémy Nestel, qui est, fait partie de Belinux, une association sur le quartier de Belleville, de déploiement sur le quartier de Belleville, Alix Cazeneuve, chargé de mission à l'April, Benjamin Bayard, président de FDN. Voilà, donc on a fait le tour de table. Les premières, ça fait suite donc à l'appel qui avait été lancé, qui comportait 26 questions, qu'on ne va pas toutes reprendre ici telles que, parce qu'il y a une contrainte de temps. C'est la difficulté du jour. On est habitué à assurer la diffusion des idées, à s'exprimer largement. Là, il va falloir tenir dans une heure et pour aborder les différentes thématiques. Et donc on va commencer tout de suite avec d'abord les questions liées au réseau en tant que tel et au déploiement de la fibre. Je laisse la parole à Benjamin Bayard.
Bonjour. Donc pour resituer un petit peu le lien municipal fibre optique, alors vous, je sais que vous le connaissez par cœur, mais pour les gens qui nous regarderont et nous écouteront, c'est pas forcément aussi évident. La municipalité de Paris, comme toutes les collectivités territoriales, a un pouvoir en matière de réseau numérique. La première implication pour Paris, c'est la fibre optique, puisque toutes les autres formes de réseau sont déjà déployées. Il y a toutes les chances, comme c'est la plus grande ville de France, la plus dense d'Europe, que la fibre optique s'y déploie, si tout va bien, plus vite qu'ailleurs. Il y a eu des annonces sur le sujet. La plus tonitruante et la première, ça a été celle de Free, qui a été très vite suivie par les trois autres gros opérateurs, Neuf, Orange et Numéricable. Et donc nous, on se posait des questions sur ce qu'est la politique municipale en la matière. En particulier, il y a un aspect de la politique municipale qui transparaît de manière très claire, et donc que nous, on a bien perçu, qui est que la ville a décidé de permettre, par exemple en proposant des tarifs un peu plus raisonnables pour l'accès aux fourreaux et donc pour permettre le déploiement de la fibre optique. Et donc on se demandait où va la politique municipale au-delà de simplement permettre au réseau fibre optique de se déployer, quels sont les choix en la matière.
Alors, pour répondre, donc je suis Christian Sauter. Nous avons de grandes ambitions. Paris a de grandes ambitions dans le domaine de la fibre optique. Et au retour d'ailleurs d'un voyage à San Francisco, Bertrand Delanoë a dit que nous allions mettre le paquet sur le déploiement de la fibre optique, ce qui ne veut pas dire qu'on met tous les œufs, si je puis dire, dans le panier de la fibre optique. Il y a aussi toute une action en direction du Wi-Fi. Et l'idée est de passer en quelques années de 3800 km de fibre optique à 10 000 km, horizon 2011 environ. Et nous avons la chance d'avoir eu un génie à Paris qui s'appelait Haussmann. Et Haussmann a créé un réseau d'égouts qui est tout à fait remarquable et qui permet de déployer des fibres optiques très vite, très bon marché. On n'est pas obligé, comme dans d'autres villes, d'éventrer les trottoirs pour faire passer ces fameuses fibres optiques. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? C'était que, si je puis dire, le coût de passage de ces fibres optiques dans les égouts a été très fortement diminué. Il ne reste plus, et c'est une vraie question, que d'aller de l'égout à l'immeuble et de l'immeuble à l'appartement. Alors là, on fait confiance à l'initiative privée, sachant, et François Dagneau pourrait en parler aussi bien que moi, que nous pensons que la fibre optique ne doit pas être une source supplémentaire de fractures numériques. Donc nous mettons le paquet, et comme élu du 19e, tu pourras en parler si tu veux, nous mettons le paquet pour que les 200 000 logements sociaux parisiens ne soient pas les derniers à être câblés, mais au contraire, soient parmi les premiers. Donc les bailleurs sociaux sont en train de discuter avec les sociétés que vous avez mentionnées. Bon, l'idée, c'est que chaque société passe pas sa fibre propre dans les cages d'escalier, mais qu'il y ait une sorte de mise en commun. Et nous espérons que les logements sociaux de Paris seront fortement câblés d'ici 2011. Et avec ceci, bon, par la fibre passera de la distraction, mais Patrick Bloch pourrait y insister aussi, passera aussi de l'éducation. Nous croyons beaucoup au contenu numérique, notamment dans le domaine éducatif. Il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui a un volet d'éducation numérique important. Et j'arrêterai là, mais pour dire que nous y croyons très fort.
Je dois insister d'un mot sur ce que Christian vient d'expliquer, qui me paraît tout à fait fondamental en matière de fracture territoriale, donc de fracture sociale. C'est pour nous un enjeu tout à fait fondamental d'accompagner un déploiement de l'accès au numérique qui ne redouble pas les inégalités qui aujourd'hui existent et qui couvrent bien la totalité du territoire, et en veillant bien à ce que les quartiers, notamment les plus populaires, soient bien privilégiés aussi dans l'accès à ces supports mis en place.
D'accord. Donc, si je comprends bien, quand vous indiquez que vous faites confiance à l'initiative privée pour déployer ce réseau, c'est un positionnement qui est par exemple différent de celui qu'on trouve dans quelques-unes des villes pionnières sur le sujet en France. L'exemple le plus connu, c'est celui de Pau, où la municipalité, sous l'égide d'André Labarrère, avait préféré un réseau de services publics. C'est par exemple le cas aussi à Confreville-Larcher, si je me souviens bien du nom, où c'est un réseau de services publics qui a été déployé. Un des impacts qu'en général ces municipalités attendent d'un réseau de services publics, c'est de mettre tous les opérateurs sur un pied d'égalité, puisqu'ils ont dans ce cas-là tous le même accès au réseau physique. Alors tous, c'est évidemment les quatre majeurs dont on parle, mais c'est aussi les dizaines d'autres petits, tout petits, voire microscopiques, qui tout d'un coup se retrouvent à avoir le même accès au réseau que les grands, puisque le tarif est le même pour tout le monde, puisque c'est un service public. Est-ce que vous avez prévu ce type de mécanisme? Est-ce que c'est un souhait de la mairie de plutôt s'orienter vers l'accès par les grands groupes à des offres de masse, pas chères, etc. Je dirais une approche traditionnelle, consumériste, ou d'essayer de faire des liens vers de l'économie locale, des opérateurs locaux, des opérateurs alternatifs, des opérateurs pour PME. Il y en a plusieurs qui sont sur Paris. Le plus connu, c'est probablement Nérim, qui est un opérateur qui officie essentiellement sur la DSL pour l'entreprise. Il y en a d'autres moins connus, comme la SBN, qui est une association. Est-ce qu'il y a une politique prévue en la matière pour ouvrir le réseau au-delà des quatre opérateurs quasi-monopolistiques actuels? Ou est-ce que, pour le moment, vous restez juste sur la fourniture privée, purement, et aucune intervention publique sur le sujet?
On peut peut-être distinguer deux choses. Je crois qu'il y a un enjeu de service public, c'est ce qu'on vient d'expliquer, notamment en renvoyant au risque de fracture territoriale, de fracture sociale. Donc je crois que c'est le rôle de la municipalité de fixer un objectif de service public et de le porter en tant que tel. Dans la mise en place et dans les modalités de déploiement de la mission, on peut imaginer des partenariats public-privé, et je pense que c'est à ça que Christian faisait référence.
On est dans cette affaire dans une démarche qui ne se veut pas dogmatique. Le service public, pour nous, c'est le service au public.
Tout à fait.
Et à partir de là, si vous voulez, on sort de notre champ... de notre champ d'intervention de ce matin, pour prendre deux exemples que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, cite régulièrement. Vélib, c'est un partenariat avec un grand acteur privé, Deco, en plus suite à un appel d'offres que Deco d'ailleurs n'avait pas gagné en premier ressort, mais à l'arrivée, voilà, ça permet d'avoir 20 000 vélos et 32 millions de redevances pour la ville, avec la possibilité que ces 32 millions de faire beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la solidarité. Mais par contre, quand il aborde le problème de l'eau, qu'il y a aujourd'hui à la fois la production qui est assumée par une société d'économie dans laquelle la ville est majoritaire, Haute-Paris, et d'un autre côté la distribution qui se partage entre deux entreprises privées, il fait le choix, alors que tout ça ne se posera qu'en 2009, pour des raisons de santé publique, d'économie, de meilleurs tarifs de l'eau et de meilleure qualité pour tous les Parisiens, il fait le choix par contre d'une régie municipale assurant à la fois la production et la distribution. Donc c'est vraiment une démarche non dogmatique qui, en cette affaire, nous amène, comme le disait François, comme le disait Christian, à ce que notre objectif soit effectivement un service au public qui permette de dépasser ce que tu appelais très justement les fractures territoriales ou les fractures sociales. Ce qui se passe notamment dans le parc des bailleurs sociaux est tout à fait essentiel. On pourrait parler des EPN qui se situent tous dans les quartiers de la politique de la ville et on veut continuer à en développer un rythme important. C'est beaucoup d'autres initiatives. Je pense quand la ville renouvelle son parc informatique et qu'elle redistribue aux associations 6000 ordinateurs, etc. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, sortons peut-être de cette logique voilà, qui est service public, c'est uniquement du public, mais essayons peut-être de nous inscrire dans une démarche dynamique, prenant en compte vos préoccupations, bien sûr.
Alors, dans les questions autour du logiciel libre, il y a des questions qui sont liées à la technique et d'autres qui sont liées aux aspects économiques. On va donc aborder ces deux sujets-là. Pour citer quelques exemples sur les aspects économiques, il y a deux pôles de compétitivité, Systématique et Cap Digital, qui abordent les questions autour du logiciel libre. On voit le dynamisme du secteur du logiciel libre du point de vue des entreprises, avec 66% de croissance, ce qui est beaucoup. Le fait que l'Île-de-France et Paris en particulier accueillent un certain nombre d'événements où se retrouvent les entreprises du logiciel libre, dont un certain nombre sont situés sur Paris. Je pense à Paris Capitale du Libre et au salon Solutions Linux qui avait lieu la semaine dernière. Sur ces questions-là, les questions liées à l'interopérabilité, les formats ouverts et, de l'autre côté, les aspects de migration et de mutualisation du développement. Emmanuel Seyman voulait intervenir.
Il y a un passage dans les réponses à Benjamin que j'ai noté, qui est le fait d'utiliser l'infrastructure réseau pour passer du contenu éducatif. Or, le contenu n'est utilisable que si on arrive à le lire, voire même on peut encourager les gens à modifier le contenu qu'on leur apporte pour ensuite qu'ils puissent le diffuser à leur tour. Et ainsi continuer la chaîne de relais. Dans ce cadre-là, certains utilisateurs sont handicapés par l'utilisation de formats qui ne fonctionnent qu'avec un seul logiciel, qu'ils n'ont pas, soit parce que ça ne marche pas sur leur ordinateur, soit parce qu'il coûte trop cher, par l'utilisation de standards qui ne sont pas ouverts, donc qui ne sont pas disponibles dans leur environnement informatique. Et je me demandais si vous aviez des réponses à apporter là-dessus.
Je veux bien dire quelques mots. Bon. Si on se place, comme l'a dit Patrick Bloch, du point de vue de l'usager, tout ce dont nous parlons, c'est comme lorsqu'on parle... l'image est peut-être mauvaise d'une voiture et qu'est-ce qu'on met dans le moteur. Bon, la plupart des gens s'intéressent aux services de déplacement. Moi, ce qui me paraît important, et c'est pour ça que Paris soutient le logiciel libre, c'est de ne pas être privé de liberté. Privé de liberté, c'est-à-dire être pieds et poings liés, et tu pourras en parler certainement, François, à propos de la politique d'achat municipal, parce que je pense que c'est bien de faire des discours, mais c'est encore mieux de faire ce que nous faisons c'est-à-dire de prouver par des actes, par des achats, qu'on croit dans les logiciels libres. Donc, on veut échapper à cette espèce de monopole ou de duopole ou d'oligopole en la matière. Bon. Ce que nous devons faire, et Patrick a fait allusion aux espaces publics numériques, c'est faire en sorte que tous les Parisiens, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur niveau de revenu, puissent accéder à cette nouvelle technologie. Bon. Et je pense qu'il y a dans le logiciel libre, si je puis dire, un potentiel d'innovation, de proximité, qui est tout à fait essentiel. Bon, je veux dire, on ne peut pas, les très grandes entreprises ne peuvent pas, à elles toutes seules, capter toute l'innovation, surtout quand on est à la frontière de l'économique et du social, de l'économique et de l'humain. Bon. Par ailleurs, nous, on pousse beaucoup à développer ce qu'on appelle l'économie solidaire. Je pense que les logiciels libres relèvent de l'économie solidaire. C'est de l'économie parce que il faut quand même que les entreprises vivent, mais leur finalité fondamentale, c'est pas de faire du profit, c'est d'apporter un service d'une autre qualité à des personnes qui spontanément peut-être ne s'adresseraient pas aux très très grandes entreprises. Donc, je ne peux pas répondre exactement à votre question qui est un peu technique, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que la philosophie du libre, vous avez fait allusion au pôle de compétitivité, eh bien, on essaie que les pôles de compétitivité, et vous avez fait allusion à Systematics et à Cap Digital, bon, puissent, en leur sein, développer, Systematics a commencé à le faire, et Cap Digital peut-être aussi, puissent développer en leur sein cette nouvelle conception, cette nouvelle conception de l'économie numérique que porte le logiciel libre.
Je vous faisais une réflexion gentiment insolente en écoutant le début de nos échanges. On est tous les trois, Patrick, Christian et moi, des élus, et me concernant en tout cas, je n'ai pas la prétention d'être un technicien, et quelque part je le revendique. Bon. Je crois qu'il faut faire attention dans la façon dont on essaie de mettre dans le débat public un certain nombre de problématiques, à le faire, et c'est la responsabilité des politiques, sans doute de le faire et de le faire mieux que ce qui est fait encore aujourd'hui, de le faire dans des formes qui soient accessibles au plus grand nombre. On a un peu, moi j'ai connu en tant qu'élu, j'exerce une autre responsabilité très différente à la tête d'un syndicat de traitement des déchets. Et c'est aussi un domaine où on a un espèce de vocabulaire, il faut décrypter, et c'est une façon de poser les problèmes ou de ne pas les poser, qui revient finalement à laisser entre les mains de quelques experts, eux très au fait de l'ensemble des questions, les questions dont on parle. Or, vous avez, vous, la conviction, puisque vous êtes des acteurs engagés dans un débat public, et il faut vous en remercier, que les enjeux qui vous intéressent et dont vous êtes porteur sont des enjeux qui doivent relever davantage, en tout cas, du grand public et du débat public. Et de ce point de vue-là, vous avez besoin que le plus grand nombre des citoyens puissent se saisir des questions qui sont posées et qui ne sont pas que des questions techniques, et en tout cas qui méritent d'être posées de façon plus large. Donc je crois qu'on a vraiment un enjeu qui nous est commun, dans la façon d'aborder les questions, dans la façon d'y apporter des réponses, de trouver, d'expliciter des problématiques, des enjeux qui puissent être accessibles au plus grand nombre. Je crois que c'est un enjeu démocratique majeur, parce qu'on voit bien à quel point l'ensemble des débats qui nous intéressent ont des implications. On évoquait tout à l'heure très concrètement des enjeux du service public, d'accès au réseau, des fractures territoriales, des fractures sociales, etc. Et je pense qu'il y a aussi un risque de fracture démocratique par rapport à ces questions. Et si on veut que ces enjeux-là trouvent leur place dans le débat public, il va aussi falloir, il faut que vous nous y aidiez quelque part, et c'est notre job, les poser dans des formes, et encore une fois dans des formulations, qui permettent à chacun de s'approprier et de mesurer l'importance de l'ensemble de ces enjeux.
Si je peux... Non, je voudrais juste compléter, parce que on est sur un enjeu qui est un enjeu effectivement essentiel, c'est l'enjeu éducatif. Et on le saisit effectivement, comme viennent de le rappeler Christian et François, avec une préoccupation majeure qui est effectivement tout l'enjeu, comme on dit, de la réussite scolaire, et donc effectivement de lutter ainsi contre la fracture sociale et les inégalités, voilà, dans une démarche qui est la manière dont on aborde et toutes ces problématiques c'est le développement économique, bien sûr, on y reviendra, mais c'est aussi évidemment une problématique de justice sociale. Je dis ça puisqu'on a fait référence au fait que Paris est partenaire de la manifestation Paris Capitale du Libre, je crois même y être intervenu en 2006. J'étais, je représentais Bertrand Delanoë donc au salon du logiciel libre où j'ai été excellemment accueilli donc pas plus tard que la semaine dernière et où j'ai signé en tant qu'élu et candidat le pacte proposé par April. Et à cette occasion, je dis ça parce qu'en visitant le salon du logiciel libre, très bien guidé par Axel Cazenave, j'ai rencontré des intervenants tout à fait passionnants qui mènent une action au sein de l'éducation nationale. Parce que qu'on parle de l'élément et de l'enjeu éducatif, il faut bien dire qu'on est dans un multipartenariat. La ville, bien sûr, mais aussi l'éducation nationale. La région Île-de-France, d'ailleurs, aussi est très intervenante en ce domaine. Et donc, j'ai rencontré des intervenants très passionnant pour dire combien dans ce gros ministère il faut construire des rapports de force et que c'est une bagarre de tout instant, surtout quand l'immobilisme est souvent le danger qui nous guette le plus. Donc en ce domaine éducatif, non seulement il y a un enjeu en termes d'équipement et c'est aussi et c'est bien sûr notre souci de doubler les équipements micro-informatiques des écoles, mais c'est aussi une préoccupation majeure qui répond, je pense, à votre interpellation. C'est effectivement ne pas rendre l'élève expert d'un outil particulier, mais avoir une démarche qui vraiment permette à tous les élèves, quel que soit leur milieu social et le contexte familial dans lequel ils sont élevés, d'être autonomes et vigilants sur ces usages numériques, donc en capacité d'avoir une autonomie par rapport aux outils et dans les usages qu'ils développent. D'où l'idée d'ailleurs de mettre en place des équipements, des espaces numériques de travail dans les collèges qui permettent à la communauté éducative d'ailleurs, hein, pas seulement les enseignants, pas seulement les élèves, mais aussi les responsables d'établissement, les parents d'élèves, de pouvoir porter à la fois cette autonomie des usages et aussi cet enjeu majeur de réussite scolaire.
Il y a un point que je voulais reprendre suite à ce que disait François Daigneault. Alors, il y a le point qui me paraît évident, c'est que on ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas experts et qui sont des politiques, c'est-à-dire qui s'intéressent à la vie en commun et pas forcément à des détails informatiques, d'être experts sur le sujet. Cependant, on ne peut pas s'en abstraire complètement. Et l'enjeu du numérique, on en a cité plusieurs, hein, il y a du divertissement, il y a de l'éducation. C'est bien pire que ça, il y a de tout. Ça a des impacts innombrables. Ça touche à tout. Ça touche à la culture, ça touche à l'économie, ça touche à la relation entre les gens. Dans les couples qui se forment, il y en a une grande partie, ils se sont rencontrés sur Internet. Hein. C'est pas neutre. C'est oui. Pas neutre. Hein. Socialement, c'est très profond. On touche à la façon dont les gens se mettent en couple pour se marier. On touche à des fondements de la société. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Je vais me permettre un parallèle un peu hasardeux. C'est comme quand on parle de liberté publique. Pour défendre les libertés publiques, il faut des experts qui aillent se plonger dans des détails de procédures pénales, de procédures juridiques, pour vérifier que le détail très précis de telle demi-phrase dans un article de loi ne va pas avoir une conséquence catastrophique. Et parfois, ça tient à un mot, ça tient à une virgule bien ou mal placée, ça tient vraiment à des choix qui sont pointus et qui demandent une très grande expertise. Et on ne peut pas mener une politique au sens noble, intelligente, de vie en commun, on ne peut pas mener une politique si on n'a pas la capacité d'avoir un avis objectif d'un expert sur le sujet. C'est fondamental. Sur l'informatique, sur le numérique, on retrouve exactement les mêmes enjeux. C'est-à-dire que moi, je vous plains beaucoup parce que vous devez comprendre et travailler sur ces sujets-là alors que vous avez... voilà, dans les experts que vous allez croiser, comme partout, vous allez en avoir qui sont là uniquement pour défendre leur biftec et où il faut faire le truc du bon gré et de l'ivraie. Mais on ne peut pas complètement s'abstraire de détails extrêmement précis, profonds, techniques. Typiquement, selon ce dont parlait Emmanuel Seyman, les questions d'interopérabilité, elles sont fondamentales. C'est-à-dire savoir si quand la mairie de Paris émet un document, il est dans un format ouvert, c'est-à-dire lisible potentiellement avec n'importe quel logiciel sur n'importe quel ordinateur, ou s'il n'est lisible qu'avec un logiciel précis sur un système d'exploitation presque. Par exemple, imaginons que la mairie de Paris... Alors, je vais éviter la tarte à la crème Microsoft. Je vais en prendre une autre, de tarte à la crème. Imaginons que la mairie de Paris décide de diffuser, je ne sais rien, par exemple, les réunions du conseil municipal en format audio, pour que les citoyens puissent savoir ce qui se dit. Si on le diffuse dans le format propriétaire iPod, iTunes, etc., d'Apple, moi, je ne pourrais pas le dire. Et seul un petit nombre, enfin petit, seuls les acheteurs de ce produit-là pourront le lire, et pas les autres. Donc, et ce détail va venir se nicher dans tout, puisque dans un avenir que je crois très proche, tout sera numérique. Donc la question interopérabilité et comment on avance sur ce sujet-là, et comment la mairie peut avancer plus vite que la musique sur le sujet, elle me paraît fondamentale. Par exemple, le RGI, que tout le monde dans le monde du logiciel libre connaît, qui est le référentiel général d'interopérabilité, qui curieusement, alors qu'il est prêt depuis presque 2 ans, n'est toujours pas signé, n'est toujours pas appliqué. Non, le signer, c'est pas du ressort de la mairie de Paris. Par contre, décider de l'appliquer, ça peut.
Sur le RGI, ça tombe bien, puisque le groupe auquel nous participons tous les trois, Christian, François et moi-même, donc le groupe que j'ai l'honneur de présider au Conseil de Paris, groupe socialiste agricole de gauche, en octobre 2006, donc ça fait 1 an et demi, a présenté un vœu qui a été adopté par le Conseil de Paris et où la ville de Paris s'est clairement prononcée pour le RGI et toutes ses conséquences. Alors après, c'est à l'État, bien sûr, de prendre les décisions. Et donc, en l'occurrence, sur le RGI, on était très clair et très tôt. C'est octobre 2006, le vote de ce vœu en Conseil de Paris. Donc, moi, je ne sais pas, sur l'interopérabilité, on pourrait passer la journée ensemble. Je m'y suis confronté en tant que parlementaire dans les conditions que vous savez. Et donc là, c'est un combat, évidemment, majeur. Et sur les articles de loi où il faut une expertise technique, là, je vous rejoins tout à fait. Voilà, le diable se cache derrière les mots et les virgules.